L'histoire, on sait bien que l'histoire se répète. Plusieurs personnes ont parlé de ça. Et la prophétie, d'un certain point de vue, certaines prophéties aussi se répètent. Il y a la prophétie en général et la prophétie spécifique. Et il y a aussi le principe biblique d'un peu ici, un peu là, que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 28 et le verset 10. Monsieur Mika a voulu que je parle sur la prophétie, et ce que j'ai pensé faire, c'est de faire un parallèle entre les prophéties accomplies, parce qu'il y a des prophéties qui sont dans la Bible, mais qui se sont déjà réalisées, donc les prophéties accomplies et les prophéties encore à venir, qui ne se sont pas encore réalisées. Et j'ai voulu choisir, ce que j'ai choisi pour ce sermon, c'est le parallèle entre quelque chose accompli et quelque chose à venir, un parallèle entre les deux Babylone. Babylone, la Bible parle beaucoup de Babylone, et ça commence même avec Babel. Nous sommes familiers avec Nimrod. On va regarder Genèse chapitre 10 et le verset 9. Genèse chapitre 10 et le verset 9. Pendant de Nimrod, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Dans ce contexte-là, le mot devant est négatif. Du reste, il y a une traduction qui parle d'un puissant ravisseur. Un puissant ravisseur devant l'Éternel. Un ravisseur ne peut pas être positif. C'est une personne qui commet un rapt. Et le Shura qui nous donne un peu cette connotation négative, Shura qui parle de face à Adonai. Face à Adonai, il y a l'idée déjà de l'opposition. C'est un homme qui s'est élevé au-dessous de ses semblables, ses contemporains, et il était un chasseur puissant devant Dieu, dans le sens qu'en opposition à Dieu, c'est négatif ici, dans ce cas. Et c'est intéressant, entre parenthèses, parce que la Bible parle de berger. Pour même le Christ va revenir en tant que berger. Et là, c'est un chasseur. Le Angus Bible Dictionary dit ceci, que le nom de Nimrod a sans doute suggéré aux Israélites l'idée de rebelle. L'idée de rebelle contre Dieu. Et le lexique loueur que je cite de temps à autre, je dis bien lexique loueur parce que c'est en français, la traduction de Nimrod, littéral, égale rebelle. Nous en avons parlé de Nimrod dans le passé. Et Babel ou Babylone, c'est à la fois une ville et un système que la Bible montre qui dure à travers l'expérience humaine. Que ça rend les gens esclaves et dans un complexe, si vous voulez, économique, politique et religion. Tout ça combiné ensemble. Et à l'avenir, Babylone va de nouveau dominer le monde dans une tentative ultime de construire une ville ou un système qui défie le dessein de Dieu. Pardon. Qui défie le dessein de Dieu. Nimrod était violent et exerçait le pouvoir sur d'autres hommes et se rebellait contre Dieu. Bon, ça commence donc avec Babel, et ensuite il y a Babylone, parce qu'il a fondé, Nimrod a fondé, entre autres, Babylone. Et nous sommes familiers avec la tête d'or, Nebuchadnezzar, que la Bible même appelle roi des rois, donc Daniel, et que la Bible dit aussi qu'après après l'Empire babylonien, il allait y avoir un autre royaume moins que le tien. La splendeur de Babylone, c'est, pour préparer ce sermon, j'ai commencé à regarder un petit peu ce que Croyez-vous historique ce qu'on disait à propos de Babylone à l'époque? Et on comprend vraiment pourquoi ce système, cet état s'est élevé et pourquoi les gens croyaient que c'était indestructible. Ésaïe chapitre 13 et le verset 19. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. Vous vous rappelez l'Apocalypse, ce que l'Apocalypse a dit juste avant que Dieu l'a humilié. Babylone la grande que j'ai bâtie. Babylone la grande que j'ai bâtie. Tout le monde a entendu parler déjà suspendu de Babylone. Les remparts, c'était quelque chose, la ville de Babylone, c'était quelque chose vraiment impressionnant. En fonction des sources que vous regardez et des commentaires qui parlent sur Babylone, il y a une variation. Bon, là, dans un premier temps, je regardais et on parle des murailles hautes de 30 mètres. Je ne sais pas si vous imaginez des murs hautes de 30 mètres, renforcés à tours, de tour à intervalles réguliers. Et les murs étaient si épais que deux chariots pouvaient se croiser. Il y avait un double mur. Certains anciens historiens parlent même de plus de 60 mètres de hauteur. Donc, comme j'ai dit, en fonction de la source historique que vous regardez, ça varie. Et plus de 15 mètres de large. Et il y avait même l'historien Walter Kaiser Jr. qui a dit à propos de Babylone que c'était plus de 55 miles, donc plus de 88 mètres de circonférence. Surtout pour une ville à l'époque, c'était vraiment, vraiment étonnant. Il y avait un mur plus de 7 mètres d'épaisseur, avec un espace de plus de 10 mètres de largeur, et puis un autre mur en brique, plus de 7 mètres d'épaisseur. Et même dans l'événement que ce mur extérieur était affranchi, enfin détruit, je pense en partie, l'envahisseur serait coincé entre ces deux murs. C'est pour ça que les Babyloniens étaient si tranquilles. Ils savaient que la ville était normalement, humainement parlant, imprenable. Dieu avait décidé autrement. Et c'était très très bien construit dans le sens que c'était un joyau. Architecture. Et bon, j'ai d'autres renseignements ici. Souvent, il y avait des maisons à l'intérieur qui allaient de 3 étages, 4 étages. C'était un merveille, point de vue, d'architecture de ville. Et c'était en rectangle, ça fait penser à certaines villes américaines maintenant. Rien que pour construire un ziggurat dans la ville, il y avait 50, on a estimé qu'on a utilisé 58 millions de briques. 58 millions de briques. Rien que pour construire un bâtiment. Donc, Babylone était, je vous ai parlé de parallèle entre Babylone ancien et le Babylone à venir. Et la première chose, premier parallèle, je vais en donner 5. Le premier parallèle, c'est que c'est Babylone la grande. Daniel chapitre 4, verset 30. Daniel chapitre 4, verset 30. C'était grande à tellement de points de vue. On vient de voir la grandeur de la ville qui est très impressionnante. Daniel chapitre 4, verset 30. Le roi prit, j'ai fait allusion à ceci tout à l'heure, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie? Babylone la grande. Déjà à l'époque, Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force. C'est ça son problème. Il attribuait tout ceci à lui-même. Par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Babylone la grande. Premier parallèle, donc, entre la ville de Babylone et aussi la ville qui va venir par la suite. Le système qui va y avoir par la suite. Et que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 18. Parce que cette femme que nous trouvons dans Apocalypse est appelée Babylone la Grande aussi, et qui domine sur la bête. Qui domine sur la bête. C'est un symbolisme ici, donc, de l'État influencé par une église. La femme représente une entité religieuse et la bête, une puissance majeure géopolitique. Et c'est quelque chose qui doit encore venir sur la scène mondiale, qui va avoir une influence politique et religieuse sur cette terre. Et quand ce système va arriver, ça va étonner le monde parce que les gens ne vont pas s'y attendre. Qui va combiner, bien sûr, la puissance militaire et économique avec l'autre élément qui est l'élément de la religion et le contrôle. Cette femme qui domine. Apocalypse chapitre 18. On sait bien que dans l'Apocalypse, la femme représente une église. En fonction du contexte, il peut s'agir de la vraie église qui est persécutée, ou il peut s'agir aussi, la femme peut s'agir dans d'autres contextes, d'une fausse église. Mais dans les deux cas, il s'agit d'une église. Apocalypse chapitre 18 donne un aspect économique. Et nous allons voir dans Apocalypse chapitre 18, verset 3, ce système qui est puissant, Babylone la Grande, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. On va peut-être commencer à lire à partir du verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il écriait d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la Grande. Exactement la même phrase que nous trouvons à propos de Babylone d'autrefois. Un parallèle. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout envoi, donc l'influence sur ce Babylone, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Une influence incroyable dans le monde. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle, parce qu'elle domine la bête, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Il y a donc un aspect économique ici. Il y a un aspect économique. Il parle de luxe. Verset 7. Autant elle s'est glorifiée, autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, deux fois que c'est mentionné, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, de nouveau le même système de suffisance, d'orgueil. Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. Ouais. Comme Babylone autrefois, pensait qu'elle était imprenable, la ville imprenable. Ici, pensait que sa fin n'allait pas arriver. Elle n'imagine pas une fin. Verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés, verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, troisième fois qu'on parle du luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Il y a cette relation qui est décrite ici. Se tenant éloignés dans la crainte et de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, dont seule heure est venue son ton jugement. » Verset 12. Verset 11. « Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de luxe, donc, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur et de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux et de chars, de corps, et ensuite, à la fin du verset 13, un verset qui fait froid dans le dos, de corps et d'âme d'homme. Des marchands. Verset 18. Et il s'écriait, en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville Babylone, la grande, avec sa puissance et son luxe. La première chose, premier parallèle donc que nous pouvons faire entre l'ancien Babylone et le Babylone encore à venir, c'est que Babylone est grande. C'est Babylone la grande et c'est écrit comme tel dans les deux cas. Le deuxième parallèle que nous pouvons faire, un deuxième parallèle, je n'ai pas fait tous les parallèles ici dans ce sermon, j'ai choisi que cinq. C'est que la fin de Babylone est déjà arrivée d'une façon permanente, pour de bon. Babylone, l'autre fois, sa fin est arrivée d'une façon permanente. Vous rappelez Daniel chapitre 2, verset, je vais pas m'y rapporter. Daniel chapitre 2, verset 34. Vous rappelez la grande statue, il y avait la tête d'or qui symbolisait Babylone. Et ensuite, ça descendait avec des métaux moins précieux. Alors, Daniel chapitre 2, verset 34, nous lisons ceci. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. Les mit en pièces. Tous les royaumes, donc, successifs de ces statues. Alors le fer, l'argile, verset 35, alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace, je souligne ça, et nulle trace n'en fut retrouvée. Ça a disparu. Ça va disparaître complètement. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Ça, c'est donc encore à venir. Mais Babylone était anéantie d'une façon permanente. Et le gouvernement des hommes va disparaître, leur valeur, leur norme, leur façon de faire. Albert Barnes, que nous citons de temps en temps, Barnes, qui parle, c'est un commentaire, qui donne un commentaire biblique, et il y a dit quelque chose de très intéressant. Là, je vois que je vais un peu plus loin. Jérémie chapitre 50, on reviendra sur Barnes tout à l'heure. Jérémie chapitre 50 et le verset 12. Jérémie chapitre 50 et le verset 12. Jérémie chapitre 50, si vous voulez étudier ça à la maison, Jérémie chapitre 50 et Jérémie chapitre 51 parlent justement beaucoup de Babylone. Et ici dans le verset 12, nous lisons ceci. Votre mère, Jérémie chapitre 50, verset 12, votre mère est couverte de confusion, celle qui vous a enfanté rugit de honte. Voici, elle est la dernière des nations, c'est un désert, une terre sèche et aride. Babylone était détruite complètement. C'est la fin, c'était la fin permanente de Babylone. C'est un désert, une terre sèche et aride à cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée. Elle ne sera plus qu'une solitude. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Très spécifique. Si vous regardez Jérémie chapitre 51, peut-être vous tournez la page, et le verset 26, on voit que la Bible appuie cette fin complète. On ne tira de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement, car tu seras à jamais, une ruine, dit l'Éternel. Et puis il y a un autre passage qui donne un certain nombre de détails, que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 13. Ésaïe chapitre 13, et le verset 20. Très spécifique, détaillé. Voilà, on a parlé de ceci dans le temps. Verset 20, tu ne seras plus jamais habité. Plus jamais habité. Une destruction permanente. Elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point sa tente et les bergers n'y parqueront point leur troupeau. Les animaux du désert y prendront leur gîte. Quand on constate la grandeur de Babylone, cette ville immense, et que Dieu dit, Dieu a prophétisé comme quoi elle allait tomber et être anéantie, il n'y a que Dieu qui, bien sûr, qui peut prophétiser de telles choses. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point sa tente. Excuse-moi, le verset 20, j'ai déjà lu. Le verset 21, les animaux du désert y prendront leur gîte, les hiboux rempliront ses maisons, les autruches en feront leur demeure, et les boucs y sauteront. Les chacals hurleront dans ses palais, et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver, et ses jours ne se prolongeront pas. Nous arrivons à Babylone moderne et nous voyons la même chose. Il va y avoir une fin de Babylone à l'avenir d'une façon permanente. Donc le deuxième parallèle que nous pouvons faire, c'est que les deux Babylone, la Babylone autrefois et la Babylone encore à venir, vont disparaître. Le fin arrive d'une façon permanente. Apocalypse chapitre 18 et le verset 21. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et le jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » C'est catégorique, c'est comme avec Babylone autrefois. « Et elle ne sera plus trouvée. » C'est la fin de ce système qui séduit les hommes, qui fait beaucoup de mal et qui persécute les saints. « Et l'on n'entendra plus chez toi les sons de loueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. La persécution, c'est une des caractéristiques, justement, de Babylone. Ça, c'est le Babylone-là. Et Babylone va tomber avant, au moment du retour du Christ. Apocalypse, chapitre 19, verset 2. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé, donc Dieu, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, un système qui est contre Dieu, contre les lois de Dieu, contre les normes de Dieu. Il a vengé le sang de ses serviteurs en redemandant de sa main. Il dit une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Babylone est détruite avant que le royaume de Dieu puisse être installé sur cette terre. La Bible parle autrement également de l'homme du péché en tant qu'un chef, un chef religieux. Et tout ça, bien sûr, va tomber. L'homme impie qui, avec l'aide de Satan, accomplira des miracles de manière à séduire les gens avant le retour du Christ. La Bible parle également du faux prophète qui séduira les habitants de la terre, les incitant à faire la guerre au Christ quand il reviendra. Faux prophète, l'homme impie. Et tout ce système va tomber d'une façon permanente. Ça, c'est le deuxième parallèle que nous pouvons constater. Il y a un troisième parallèle. Babylone est tombée, Babylone va tomber suite à une destruction totale. On a commencé à aborder ceci déjà. Alors, pourquoi? Pourquoi Babylone est détruite? Jérémie, chapitre 50, et le verset 12. Jérémie, chapitre 50, et le verset 12. Dieu ne prononce pas des prophéties, des jugements, sans qu'il y ait de raison. Et ici, nous voyons les raisons. Dans Jérémie, chapitre 50, on revient donc à Jérémie 50, le verset 12. Votre mère est couverte de confusion, celle qui vous a enfanté a rugi de honte. Voici, elle est la dernière des nations, c'est un désert, une terre sèche et aride. À cause, verset 13, à cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée. Elle ne sera plus qu'une solitude. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Rangez-vous en bataille, donc je poursuis par rapport à tout à l'heure. Rangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous archers, tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches. Pourquoi? Pourquoi Babylone tombe? Suite à une destruction, justement, massive, parce que, comme c'est marqué dans le verset 14, car elle a péché contre l'Éternel. Elle a péché contre l'Éternel. Elle a raté la cible. Elle est allée complètement à côté de la voix de Dieu, en opposition même à la voix de Dieu. Verset 29. Appelez contre Babylone les archers, vous tous qui maniez l'arc, campez autour d'elle, que personne n'échappe. Rendez-lui selon ses œuvres, faites-lui entièrement comme elle a fait, car elle s'est élevée avec fierté contre l'Éternel. L'orgueil de ce Babylone d'autrefois, contre le Saint d'Israël. Et la Bible parle de la vengeance, je ne vais pas vous donner toutes ces... Enfin, je peux vous les donner, mais je ne vais pas les lire. La Bible parle également de la vengeance de l'Éternel. Je vous donne quelques références. Dans Jérémie chapitre 50, toujours. Jérémie 50, verset 15, verset 28 et verset 29. Jérémie chapitre 50, verset 15, verset 28 et verset 29. Et on peut aussi ajouter Jérémie 51, Jérémie 51, verset 6, verset 11 et verset 36. Jérémie 51, verset 6, verset 11 et verset 36. On va quand même regarder Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4. Le verset 27. Daniel chapitre 4 et le verset 27. Vous vous rappelez quand Daniel a parlé, il a interprété le rêve de Nebuchadnezzar et ce qui allait lui arriver. Et puis, il était étonné au début, il a même donné un conseil au roi pour que les choses n'arrivent pas, les choses que Dieu a prophétisées. Daniel chapitre 4, le verset 27, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés. Donc, Babylone, déjà, y avait péché. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice. Le contraire, la voie de Dieu, en pratiquant la justice et à tes iniquités, par le péché, par les iniquités, dans ce Babylone d'autrefois, de tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Malheureusement, Nebuchadnezzar n'a pas écouté, et un an plus tard, les choses qui ont été prophétisées se sont réalisées. Jameson Fawcett et Brown, une autre concordance qu'on cite de temps en temps, un ouvrage biblique, dit que probablement Nebuchadnezzar opprimait les pauvres et a obligé à travailler dans ses grandes œuvres publiques. Que probablement Nebuchadnezzar opprimait les pauvres et les obligeait à travailler dans ses grandes œuvres publiques. Mais de toute façon, il y avait péché. Il y avait péché, il y avait iniquité. Voilà pourquoi Babylone est tombée. Mais Babylone est tombée. On arrive maintenant donc au troisième point, suite à une destruction totale. Suite à une destruction totale. C'est ce que nous trouvons également dans l'Apocalypse avec le Babylone spirituel qui est mentionné ici. Ou, je parle de Babylone spirituel, mais il y a aussi, comme on a vu tout à l'heure, tout un éventail d'aspect physique, le luxe, entre autres. Quand nous regardons la chute de Babylone dans l'Apocalypse, nous voyons qu'il s'agit d'un jugement sévère de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que ses péchés étaient justement sévères, vont être sévères, ont été sévères justement à travers les siècles. Apocalypse chapitre 18, verset 2. Persécuter les saints, opprimer les saints, tuer les saints, tuer le peuple de Dieu. Nous, ici, nous sommes en Europe et nous connaissons ce qui s'est passé à travers les siècles. Apocalypse chapitre 18, verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, repère de tout esprit impur, repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations, justement, ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre sont livrés avec elle à l'impudicité. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Le même mot qui revient ici. Donc, elle est tombée suite à une destruction totale. Vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Péché, c'est très clair. Babylone, comme j'ai dit, qui a versé beaucoup de sang. Chapitre 17, verset 6. Et j'ai vu cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en le voyant, je fus saisi de grand étonnement. Chapitre 18, verset 24. Le monde entier va être étonné à l'avenir. Quand Babylone spirituelle va dominer, va être sur la scène. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints, et tous ceux qui ont été égorgés sur la terre, on a lu ça tout à l'heure. Et puis le verset, chapitre 19, verset 2, je crois qu'on a aussi lu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Quand il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Destruction totale. C'est le troisième parallèle que nous pouvons constater. Babylone est tombée suite à une destruction totale. Quatrième parallèle, c'est que la chute des deux Babylones, Babylone passé, est arrivée et va arriver soudainement. Très soudainement. Jérémie 51, verset 8, nous sommes probablement familiers avec l'histoire de Babylone, la chute de Babylone en 539. C'est vraiment étonnant parce qu'on a constaté au début du sermon la grandeur, la puissance de Babylone, et il se croyait justement imprenable. Il ne pensait pas qu'il pouvait tomber. Qu'elle pouvait tomber. Jérémie chapitre 51, verset 8. Donc, quatrième parallèle, ça arrive, la chute de Babylone est arrivée soudainement. Soudain, Babylone tombe, elle est brisée. J'ai misé sur elle, Jérémie 51, 8. Soudain, Babylone tombe, elle est brisée. J'ai misé sur elle, prenez du paume pour sa plaie. Peut-elle guérir, peut-être guérira-t-elle. Non, elle n'est pas guérie, elle n'a pas été guérie. Vous rappelez, dans Daniel, avec Belshazzar qui était à la tête, peut-être avec son père, de père avec son père, à la tête de Babylone à ce moment-là, il y avait l'écriture sur les murailles, on a appelé Daniel, et Daniel a lu et interprété l'écriture sur la muraille. Cette même nuit, Belshazzar, roi de Babylone, fut tué. Donc il a prédit Daniel, enfin c'est Dieu qui a donné, et Daniel qui a interprété, et il a parlé de la chute de Babylone. Et c'est marqué quelques versets plus loin, cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Vous parlez de soudain, vous parlez de rapide, et l'histoire nous dit qu'ils étaient derrière les murs. Ils ne pensaient pas, les soldats ne pensaient pas que Babylone pouvait tomber, évidemment, avec des murs si hauts, des dizaines de mètres de hauteur, avec deux murs espacés pour qu'on puisse, que personne puisse les franchir. Hérodotus, qui est connu comme le père de l'histoire, disait qu'il y avait des prisonniers à l'extrémité de la ville, avant que l'alarme atteint le centre du palais. C'était quelque chose qui était vraiment soudain. Les choses arrivaient très soudainement. Évidemment, nous sommes familiers avec comment les choses se sont passées. Ils ont dévié l'Euphrate, la rivière qui traversait Babylone. Ils ont réduit le niveau d'eau, et c'est comme ça que les soldats pouvaient entrer. Mais regardons voir, parce que ça suffit pas, parce que si vous entrez et qu'il y a la porte vers le mur intérieur n'est pas ouverte, vous êtes coincé. Même si vous arrivez à franchir le premier mur, parce que le niveau d'eau est basse. Ésaïe chapitre 45, verset 1. Dieu a donné une autre prophétie, Ésaïe 45, verset 1. Dieu a prophétisé qu'il allait y avoir un être qui allait s'appeler Cyrus. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son roi, à Cyrus, qu'il tient par la main. pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes. Pour lui ouvrir les portes. Et là encore, le point de vue historique, les choses varient un petit peu, mais toujours est-il que Dieu a prophétisé que la porte, c'était la porte donc vers l'intérieur de la ville, allait être ouverte. Il y a des versions qui disent que c'est l'espion qui a fait ça. Mais toujours est-il que Dieu a prophétisé que la porte, lui ouvrir les portes, évidemment, ouvrir les portes pour qu'il ne soit pas coincé, pour qu'il puisse entrer dans la ville, et les gens étaient pris de court, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Afin qu'elles ne soient plus fermées. Les soldats qui riaient du haut du mur de Babylone étaient vaincus. Mais c'est Dieu qui a permis justement que Cyrus, l'armée de Cyrus, puisse y entrer et que les portes soient ouvertes. Quelque chose qui est arrivé pendant la nuit. Dieu a prophétisé et Babylone est tombée pendant la nuit. Babylone va tomber rapidement à l'époque de la fin. Nous voyons dans Apocalypse, chapitre 17, verset 8. Apocalypse, chapitre 17, verset 8. À la fin du règne des hommes, les choses vont succéder très rapidement. Apocalypse, chapitre 17, verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. On ne sait pas tout ce qui se passe dans notre monde, dans les coulisses. On ne sait pas. Mais on sait qu'il va y avoir un aboutissement. Verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu du royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure. Une heure, c'est un laps de temps très court. Pendant une heure avec la bête. Et au temps de la fin, chapitre 18, verset 10, je ne vais pas les lire, là, je vais entre ces références. Apocalypse chapitre 18, verset 10, verset 16 et verset 19. Quelque chose qui arrive soudainement. Apocalypse 18, verset 10, verset 16 et verset 19. La Bible répète que c'est dans une seule heure. La Bible souligne le fait que ça arrive rapidement. Très rapidement. Et là, la citation de Barnes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il a dit ceci. Il est question de destruction totale. Et le sens donné ici est que la Babylone spirituelle, je passe un peu plus loin dans sa citation, sera réduite un état de destruction totale identique à celle de l'antique Babylone. Je répète ceci. Il est question de destruction totale et le sens donné ici, c'est que la Babylone spirituelle, mais un peu plus loin, sera réduite à un état de destruction totale identique à celle de l'antique Babylone. Quatrième point, donc, parallèle avec la rapidité. Le cinquième point, c'est de pair avec la religion. De pair avec la religion. Babylone enivrait toute la terre. Je vous donne la référence, c'est Jérémie 51, verset 7. Jérémie 51, verset 7. L'image qui est donnée, c'est Babylone qui verse une coupe de vin qui est déversé sur les nations. Les nations sont rendues ivres. Mais il y a un côté un côté de fausse religion qui accompagnait déjà Babylone à l'époque. Et nous sommes très conscients qu'à l'avenir, que l'Ocorne de l'Apocalypse chapitre 18, verset 11, il y a une influence néfaste, une influence spirituelle. Apocalypse chapitre 13, le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Mais derrière cette image, cette façade, si je puis dire, nous voyons, et qui parlait comme un dragon. Et nous savons qui est un dragon dans la Bible. Il y a une entité religieuse. Apocalypse chapitre 13 et le verset 4. Ils adoraient le dragon parce que il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il y a une influence de Satan qui est derrière les événements à la fin de le règne des hommes. Verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Du pouvoir, avec, bien sûr, l'influence du dragon. Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en présence, et elle faisait que la terre, ses habitants, adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, cette influence religieuse. Verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Les gens vont être étonnés en voyant ceci. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. De pair avec la religion. De pair avec la religion. Et donc, cette Babylone à venir, il y a cette influence religieuse. Et ça m'amène à ma conclusion, c'est que quand Babylone est tombée, quand Babylone va tomber, quand Babylone est tombée, il y avait la réjouissance. La réjouissance de sa chute dans Jérémie 51, verset 48. Jérémie 51, verset 8, et c'est, vous pouvez mettre ça comme un sixième point, si vous voulez, un sixième parallèle. La réjouissance de sa chute, Jérémie chapitre 51, verset 48. Et là, de nouveau, on trouve le même langage. Verset 48, sur Babylone, retiendront des cris de joie. Sur Babylone retentiront les cris de joie des cieux et de la terre. Les hommes étaient contents à ce moment-là et de tout ce qui renferme. Car du septentrion, les dévastateurs fondront sur elle, dit l'Éternel. La réjouissance de cette chute de Babylone. Et Apocalypse 18 nous dit la même chose quand ce système va tomber. Apocalypse chapitre 18 et le verset 9. Il faut précipiter le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il faut précipiter sur la terre et ses anges, il faut se précipiter avec lui. Verset 10. Non, je ne suis pas dans le bon chapitre, excusez-moi. Chapitre 18 et le verset 9. Chapitre 18 et le verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleurant et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Il y a un contraste. On parle de malheur ici. Et dans le verset 10, Se tenant éloigné dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante. » Ceux qui font partie du système, qui travaillent avec le système, pour eux, ce sera un énorme malheur. Mais Pour le peuple de Dieu, ce sera la réjouissance. Verset 19. On voit de nouveau cette conception de malheur qui revient. Et ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil, criaient, disant, malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. Une seule heure, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure, j'ai donné la référence tout à l'heure. Verset 20. Ciel, évidemment, Dieu se réjouit de la chute de Babylone spirituelle. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi. La chute de Babylone est une cause de réjouissance. C'était vrai à l'époque et ce sera vrai à l'avenir. Et si vous regardez le chapitre 19, il y a un mot qui est évoqué, je crois, plusieurs reprises. En tout cas, au début du chapitre 19, verset 1, nous avons le mot « Alléluia ». Alléluia, c'est louer l'Éternel. Et c'est aussi, d'une certaine façon, un cri de réjouissance. Un cri de réjouissance parce que Babylone, avec tout ce que Babylone a fait de mal, Babylone est tombée.